les jardinières.
Ce matin, on quitte le potager pour une balade dans les bois. Bienvenue chez les jardinières en forêt. Et parmi les lutins des bois, on retrouve Noélie. Bonjour.
Bonjour Mylène.
Notre guide en forêt ce matin, c'est Gaëlle Mona. Gaëlle, vous êtes contrôleuse de champignons pour la VAPCO. Et comme toujours, c'est un plaisir de vous recevoir chez les jardinières. Bonjour. Oh, peut-être c'est mieux si je vous ouvre le micro.
Merci Mylène. Bonjour.
Les jardinières en forêt, c'est jusqu'à 8h. Soyez les bienvenus.
7h, 8h, les jardinières.
Gaëlle, durant une heure, nous allons parler des champignons et plus précisément de leur mode de vie. On trouve les champignons les plus souvent dans les bois, comme les plantes, mais ils n'ont pas de chlorophylle, les champignons, et digèrent leur nourriture comme les animaux. Bon alors, les champignons végétaux, animaux, complètement à part?
Alors, pendant longtemps, on a considéré les champignons comme des plantes, donc c'était beaucoup les botanistes qui les étudiaient. Mais avec l'arrivée du microscope, on a vu que les champignons, en fait, ils avaient quand même des particularités qui étaient autres que les plantes. Et après, du coup, ils sont comme les plantes parce qu'ils ont autour de leurs cellules, ils ont des parois, comme les plantes. Par contre, génétiquement, ils sont plus proches des animaux. Et puis, en fait, comme eux, ils ont besoin de matière organique pour se nourrir. Donc, en fait, c'est vraiment un groupe à part. Et depuis qu'on a la génétique, le microscope, on a vraiment créé un groupe pour les champignons.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, nous sommes en compagnie de Gaëlle Mona, contrôleuse de champignons. Et jusqu'à 8h, on vous fait découvrir une partie de ce monde fongique.
Gaëlle, il n'y a pas meilleur endroit que la forêt pour découvrir les champignons. On vous a justement suivi dans une balade en terre neuchâteloise.
Aujourd'hui, on est dans la forêt de Cortaillot avec Noélie qui nous accompagne. Et dans cette forêt, en fait, elle est bien parce qu'il y a une grande diversité d'arbres. Donc c'est pour ça que je vous emmène ici. Et du coup, potentiellement, une grande diversité de champignons. Et puis là, je me suis arrêtée parce que qu'est-ce qu'on voit à nos pieds? En fait, on voit une vieille branche toute morte, toute décomposée. Mais si on soulève l'écorce, ici, en fait, on voit comme des racines noires. Ces racines noires, en fait, c'est les cordons mycéliens d'un champignon qu'on appelle même rhizomorphe. Donc, c'est des rhizomorphes. Et ce champignon, c'est une armillaire. Et l'armillaire est un champignon parasite, c'est-à-dire qu'elle va tuer l'arbre. Et puis, une fois qu'il est mort, elle va quand même continuer son festin à le détruire. Et en fait, par les racines, elle remonte, elle monte dans l'arbre sous l'écorce. Et puis, du coup, elle dégrade petit à petit l'arbre.
Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut voir? Parce que ça, c'est un champignon aussi. Ça, c'est un champignon. Ça.
Oui, ça aussi, c'est un champignon. Et puis, ce qui est bien, c'est que... Après, une fois que l'arbre est à terre, il est mort. Mais du coup, il y a énormément de champignons qui vont commencer à les dégrader et puis en fait à recycler la matière organique pour que ça redonne des sels minéraux aux arbres.
Est-ce que du coup, les champignons sont un peu en compétition par rapport à des bouts de territoire qu'ils vont aller chercher une compétition entre les différentes espèces ou pas spécialement?
Oui, bien sûr. Et puis même si on voit dans ce tronc d'arbre, alors celui-là, il n'est pas vraiment bien visible, mais on voit à certains endroits qu'il y a des zones noires. Et en fait, c'est vraiment, on va dire, une guerre de tranchées entre les champignons. Donc, ils vont se délimiter leur zone pour se nourrir. En fait, ils délimitent leur garde-manger. Et puis, ils créent une structure de mélanine, comme la mélanine qu'on a dans notre peau. Et pour justement rendre, en fait, imperméable cette zone, et puis que l'autre n'arrive pas à rentrer. Et puis là, sur le cordon mycélien qu'on appelle rhizomorphe, justement, on voit que c'est noir, parce que justement, il y a de la mélanine pour pouvoir résister et du coup, durer plus longtemps.
Sans champignons, pas de réseau, et sans réseau, sans communication entre les arbres, ce n'est pas possible pour les petites pousses de s'élever et de se développer.
Exactement. Et vraiment, le champignon, il connecte la forêt. Et en fait, on a même des fois un regard dans certaines littératures où en fait, la forêt, c'est presque un organisme à part entière, en fait. Tout est lié, en fait. Après, pour une autre anecdote niveau art, parce que je trouve cool, c'est quand on voit des grands chênes, il y a plein de petits chênes autour. Mais le grand chêne, en fait, il empêche les petits chênes de pousser parce qu'il ne faudrait pas justement qu'ils poussent, vu que c'est ses bébés, puis qu'ils lui prennent la place. Donc en fait, il va ralentir les petits chênes. Par contre, quand le grand chêne chêne, il meurt, hein, eh ben, en fait, il va avoir apporté énormément de lumière. Et puis là, c'est la course entre les petits chênes pour savoir lequel arrive le premier en haut et lequel va prendre la place du grand chêne. Donc, il y a vraiment toutes des histoires autour des arbres et de la forêt qui sont très intéressantes et passionnantes.
Alors justement, Gaëlle, ces histoires très intéressantes et passionnantes, je vais y arriver. Est-ce que vous avez encore une petite anecdote à nous glisser comme ça sur les histoires entre arbres et forêts ?
Alors oui, j'en ai une. Quand les colons australiens, ils sont arrivés en Australie, ils avaient un peu l'ennui de Noël. Du coup, ils ont décidé d'apporter des sapins de Noël. Puis ils ont essayé de planter des arbres, puis ça passait pas, ça ne poussait pas, ça se développait pas. J'étais là, oh zut, qu'est-ce qui se passe ? Puis après, ils ont essayé d'importer carrément le pot depuis l'Europe. Et puis là, ça se développait. Et en fait, ils ont analysé le sol, ils ont analysé les racines de l'arbre, puis ils ont vu en fait qu'il y avait un champignon. Donc sans champignon, le petit sapin, il n'arrivait pas à se développer. Avec champignon, le sapin, Noël, ben, il était là, puis ils étaient tout contents. Après.
C'est la magie de Noël.
Oui.
7h, 8h, les jardinières.
Les champignons ont plus d'un tour dans leur mycélium. On distingue généralement trois grands modes de vie chez eux. Les saprophytes, qui se nourrissent de matière morte, les parasites, qui vivent aux dépens d'un autre organisme, et les mycorhiziens qui coopèrent avec d'autres espèces. Pour commencer, on s'intéresse à la première catégorie, les champignons saprophytes, véritables champignons du recyclage naturel. Gaëlle, alors vous nous expliquez ce mode de vie recycleur saprophyte, comment ça marche ?
Alors en fait, le mode de vie saprophyte, c'est des champignons qui, on dit, c'est un peu les brutes du monde fongique. C'est-à-dire qu'ils vont arriver et puis ils vont dégrader toute matière organique morte qu'elle a partout.
Quel type de déchets naturels les champignons saprophytes sont-ils capables de digérer ?
Alors ça peut être les feuilles qui tombent, ça peut être les fleurs aussi quand elles tombent au sol, les pives, le bois, donc les troncs d'arbres, tout en fait ce qui arrive au sol sont dégradés. Même dans le sol lui-même, il y a aussi des champignons saprophytes.
Et puis ce champignon saprophyte, quel rôle il joue dans les écosystèmes, spécialement dans le recyclage des nutriments ? Comment ça se passe ?
Alors il faut s'imaginer que sans champignons saprophytes, en fait on aurait des kilomètres de litière sur notre tête. Et en fait, ils ont même justement, à l'époque du carbonifère, il y avait énormément d'accumulation de débris de matière organique. Et en fait, au moment où les champignons ont inventé justement la dégradation du bois, donc de la lignine, et on n'a plus de telle accumulation de matière organique. Donc ils ont vraiment un rôle à jouer pour renourrir les plantes et redonner les sels minéraux aux plantes.
Gaëlle, est-ce qu'on peut retrouver des champignons saprophytes dans nos assiettes ?
Bien sûr, surtout qu'il y en a un de saison maintenant, le tricholome de la Saint-Georges, qui est justement un champignon saprophyte. On a aussi beaucoup d'agarics comme le champignon de Paris et autres agarics des bois qu'on a. La pleurote aussi, les shiitakes. Donc on voit qu'on a beaucoup de champignons de culture qui sont saprophytes, parce que du coup on n'a besoin que de matière organique et puis on n'a pas besoin de plantes avec. Et on a aussi les lépiotes, les géotropes. Et là aussi, une qui est connue, c'est la morille. Donc la morille, elle a un mode de vie saprophyte. Mais donc, quand on la trouve, quand il y a par exemple, on a mis des copeaux de bois puis que la morille se développe, là, elle est en mode saprophyte. Par contre, elle peut être en symbiose avec des arbres. Donc en fait, elle peut avoir plusieurs modes de vie.
On va poursuivre cette discussion sur les modes de vie. J'avais juste une dernière question. Il y a les saprophytes, les mycorhiziens, les parasites, donc ces trois grands modes de vie. Est-ce que si on retire un, ça perturbe tout l'équilibre et c'est plus possible ?
Alors, je pense qu'effectivement, ils sont en fait tellement partout, les champignons, et dans ces trois modes de vie, que les parasites, ils vont réguler la forêt, par exemple, s'attaquer aux arbres faibles. Les saprophytes, ils vont recycler la matière. Et puis les mycorhiziens, donc ceux qui sont en symbiose, ils vont vraiment collaborer pour que l'arbre puisse se développer aussi de manière correcte.
Les jardinières.
Ce matin, les jardinières ont quitté le potager. Nous parlons de champignons en compagnie de notre invitée Gaëlle Mona, contrôleuse en champignons.
Après les champignons saprophytes qui sont des recycleurs de la matière morte, les champignons parasites préfèrent s'installer sur des êtres bien vivants qu'ils utilisent comme source de nourriture. Gaëlle, comment fonctionne le mode de vie parasite chez les champignons ?
Alors en fait, ce sont eux les truands du monde fongique, hein, c'est-à-dire qu'ils vivent au détriment de leur hôte. Et puis du coup, petit à petit, ils vont les dégrader, mais de leur vivant. Les plus connus pour nous, c'est les mycoses. Et du coup, vraiment, ils tuent leur hôte gentiment.
Est-ce que ces champignons, pardon, quel type d'organismes sont les plus souvent touchés par ces champignons parasites? Alors nous, c'est entre les doigts de pied, mais dans la nature?
Alors dans la nature, on a les végétaux qui sont aussi attaqués, les animaux bien sûr. Et puis il y a même des champignons qui parasitent d'autres champignons. Donc tout y passe.
Est-ce que ces champignons parasites ou certains de ces champignons parasites sont dangereux pour l'environnement ou alors pour notre santé?
Alors bien sûr, déjà dans les responsables de parcs, ils n'aiment pas quand justement il y a des champignons parasites de végétaux parce qu'ils peuvent vraiment dégrader des arbres assez rapidement. Hein, notamment au jardin botanique de Fribourg, ils ont un magnifique bouleau qui est en train petit à petit de se faire bouffer par l'armillaire. Et puis elle monte le tronc comme on l'a vu dans la balade. Donc ils n'aiment pas trop. Les mycoses, ben voilà, pour nous c'est aussi embêtant. Et puis il y a aussi aussi un champignon qui est assez connu et que les agriculteurs n'aiment pas, c'est l'ergot du seigle. Donc c'est un parasite du seigle qui pousse sur les épis. Et en fait, pendant longtemps, on ne savait pas qu'en fait il était là. Et puis il a fait beaucoup de dégâts, notamment parce qu'il crée, si on le consomme, des hallucinations. Il crée aussi la perte de certains membres parce que les vaisseaux sanguins vont venir se contracter très fort. Puis la circulation ne va plus se faire. Et il est connu aussi dans la littérature, ce champignon avec les sorcières de Salem, par exemple. Donc c'est ce champignon qui a impacté.
Alors, ce champignon parasite, je vais un petit peu dévier des questions que vous avez proposées. Est-ce qu'on peut l'utiliser, par exemple, pour détruire des plantes qu'on n'aimerait pas?
Alors, certains champignons parasites, on va les utiliser aussi pour pas forcément détruire certaines plantes, peut-être aussi, mais surtout, par exemple, pour contrôler certains ravageurs. On peut utiliser les champignons pour ça aussi.
Gaëlle, certains champignons parasites peuvent même prendre le contrôle d'insectes, il faut nous expliquer.
Oui, alors ça s'appelle, par exemple, il y a la fourmi zombie. Donc le champignon, en fait, il va venir s'attaquer à la fourmi, il va rentrer dans son système nerveux, dans son cerveau. Il va prendre le contrôle et en fait, il va modifier le comportement normal de la fourmi. La fourmi, en fait, elle va grimper sur un brin d'herbe au lieu de rentrer le soir comme d'habitude à la colonie. Puis en fait, elle se fixe sur ce brin d'herbe. Et puis, donc généralement, ce brin d'herbe, il est autour de la colonie ou sur la colonie. Donc, elle est en hauteur. Et puis en fait, le champignon, après, il va faire sa fructification. Puis en fait, il va disséminer les spores partout qui vont retomber petit à petit sur la colonie et donc infester d'autres fourmis.
Et ça ne peut pas être chez l'homme, rassurez-nous.
Alors,
quoi qu'on pourrait penser que ça existe déjà. Mais...
À ma connaissance, je ne connais pas encore de champignons qui infestent le cerveau, mais les champignons, ils peuvent vraiment... Enfin, si une personne est immunitairement faible, par exemple, il peut envahir le corps, les poumons, par exemple, de certaines personnes. Mais il faut qu'elle soit immunitairement déjà affaiblie.
7h, 8h, les jardinières.
On termine notre tour des modes de vie, fongiques avec les champignons mycorhiziens, Gaëlle. Ces champignons vivent en association étroite avec les racines des plantes dans une relation gagnant-gagnant. Chacun y trouve son compte et cette coopération est essentielle à la santé des forêts. Alors Gaëlle, comment ça se passe cette alliance avec les plantes?
Donc on avait la brute, le truand et voici le bon champignon qui les arbres, en fait, avec leurs petits panneaux solaires qui sont dans le feuillage, donc les feuilles, vont pouvoir transformer l'eau et le CO2 en sucre. Et puis, en échange, en fait, donc la sève, donc les sucres vont redescendre aux racines et le champignon va plutôt prélever ses sucres. Et puis, du coup, il faut bien un échange pour que ça soit une symbiose et puis qu'il y ait une bonne relation. Ça veut dire que le champignon va aller chercher avec son réseau mycélien qui est assez profond dans le sol, de l'eau et les sels minéraux et pouvoir leur donner à la plante. Donc, il y a un échange qui se fait entre les deux.
Quels sont les avantages de cette symbiose pour les deux partenaires?
Alors, l'avantage, c'est que le champignon, grâce à son réseau mycélien, il peut aller loin, il fait l'échange avec la plante, et puis du coup, il va donner les éléments nutritifs nécessaires à la plante pour qu'elle se développe. Et puis, cette symbiose, elle se fait vraiment souvent au niveau des racines du champignon, c'est pour ça qu'on l'appelle mycorhize. Mais aussi, ce réseau mycélien, en fait, il peut justement connecter les arbres entre eux. Donc, on dit que le champignon, c'est vraiment le web de la forêt. Donc, il connecte les arbres entre eux et il a une grande importance.
Et Gaëlle, est-ce que toutes les plantes peuvent former ces mycorhizes ou seulement certaines en profitent?
Alors, en gros, dans une forêt, on dit qu'il y a 9 plantes sur 10 qui sont en symbiose avec les champignons. Donc, c'est quand même une grande proportion. certaines plantes vont peut-être pas forcément te faire des mycorhizes, mais souvent les champignons, en fait, ils vont pouvoir s'associer à certaines espèces spécifiques. Si je prends le bolet du mélèze, par exemple, il va s'associer à un mélèze essentiellement. Par contre, il y a des champignons qui vont se mettre en symbiose avec plusieurs arbres. Et du coup, ce qui est bien, c'est que s'il y a un arbre qui tombe, ils pourront justement continuer à se développer avec un autre arbre. Donc, ils connectent tous ces arbres, puis ils savent choisir aussi leur espèce.
Gaëlle, en quoi ces champignons mycorhiziens sont-ils capitaux pour les écosystèmes ?
Alors, en gros, sans champignons, il n'y aurait pas de plantes. Sans plantes, il y aurait aussi peut-être moins de champignons, ça c'est clair. Donc, il y a vraiment une importance dans le sens que, à l'heure actuelle, le changement climatique qui va plus influencer, on va dire, les plantes. Parce qu'on sait que vu que l'atmosphère se réchauffe, les périodes de sécheresse sont aussi plus intenses, les tempêtes sont un peu plus fortes. Donc le premier impacté, c'est les plantes qui vont pouvoir mourir, ne pas pouvoir survivre. Par contre, le champignon, comme il est en relation avec plusieurs espèces, du coup, il va pouvoir, lui, continuer de sa petite vie et puis de se développer. Donc, le champignon est moins impacté par ce réchauffement climatique, on va dire. Par contre, il y a d'autres espèces qui sont peut-être plus à profit ou justement en symbiose peut-être avec d'autres arbres. Avec le changement climatique, du coup, vu qu'il y a un changement dans la forêt, il y aura aussi un changement d'espèces qui vont apparaître. Ou alors des espèces qui, vu que le climat, l'environnement change, ils vont pouvoir être favorisés. Je pense justement à la manite des Césars, qui est un champignon qui pousse plutôt en Valais ou à Genève, parce que justement, il y a des périodes d'été très chaudes, très secs, donc il a besoin de ça pour se développer. Et du coup, on en a retrouvé chez nous il y a 3 ans, je crois, alors que ça faisait depuis les années 50 qu'on ne l'avait pas découvert. Donc, il y a des choses qui se passent et puis du coup, qui peuvent favoriser certains champignons et justement au détriment d'autres.
Alors, le champignon mycorhizien, c'est le bon. Est-ce que ça veut dire que tous les champignons mycorhiziens sont bons à manger ?
Ah, bien sûr que non.
Parce que c'est trop facile.
Oui, ce qui est un des plus connus, c'est la manite phalloïde ou la manite des Césars, ou la manite tumouche, qui sont des champignons toxiques.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, nous parlons de champignons en compagnie de Gaëlle Mona, contrôleuse en champignons dans le canton de Neuchâtel. Et pour terminer cette émission, on vous propose un peu de prévention. C'est toujours bien la prévention. Alors Gaëlle, si certains champignons sont délicieux, d'autres peuvent être dangereux. Alors c'est quoi les premiers symptômes quand on ingère un champignon pas bon ?
Alors, les cas les plus fréquents, c'est quand même le syndrome gastro-intestinal, c'est-à-dire qu'on aura vomissements, diarrhée, crampes d'estomac, qui peuvent être provoqués par des champignons toxiques, mais également par des champignons qui deviennent toxiques dans le sens qu'ils ne sont plus en état d'être consommés, ou encore des champignons qui sont mal cuits. Et souvent, les causes d'intoxication les plus répandues, c'est les champignons qui ne sont plus en état d'être consommés ou qui ont été mal cuits.
La cuisson, on rappelle vite fait, 20 minutes.
20 minutes, généralement, et à découvert, pour être sûr que les substances thermolabiles s'évaporent.
Quelles sont les espèces de champignons les plus dangereuses à connaître absolument pour éviter les erreurs ?
Alors, les plus connus, en fait, les plus dangereux, c'est les sosies, en fait. C'est que souvent, chaque espèce comestible, en fait, elle a son sosie qui peut être toxique, enfin, qui est souvent toxique. Et par exemple, à cette période, on a le tricholome de la Saint-Georges. Et puis, il faut faire attention parce qu'on a l'entholome livide qui lui ressemble et qui, lui, est fortement toxique avec justement énormément de vomissements, diarrhées, crampes d'estomac qui est assez, assez violent. Donc, faut faire attention. Puis, dernièrement, il y a une collègue qui a contrôlé des tricholomes de la Saint-Georges. Et puis, elle a dit, amenez-les-moi. Et effectivement, il y avait des entholomes avec. Donc, faut quand même faire attention. Et aussi, on peut avoir encore le tricholome tigré aussi, qui est assez fort, assez violent dans les symptômes.
Il faut se méfier. Alors, Gaëlle, si tout d'un coup, on ingère un champignon toxique ou un de nos enfants ingère un champignon toxique, est-ce qu'il faut réagir rapidement en cas de doute ?
Alors, en cas de doute, oui, parce que si on pense, par exemple, les plus dangereux, c'est les champignons mortels. Et ces champignons, on ne va pas avoir forcément des grands symptômes assez rapidement. Donc, on peut avoir simplement aussi vomissements ou crampes d'estomac entre 6 à 12 heures après l'ingestion. Et là, c'est là qu'il faut se méfier parce que, du coup, c'est des substances qui sont sont mortelles. Et on peut, à la maladie de phalloïde, mourir en 3 jours, hein, avec une insuffisance hépatique. Donc, ils sont assez durs. Donc, les choses à faire importantes, c'est de, quand on consomme des champignons, c'est de garder les déchets au frigo, et puis, ou deux exemplaires. Comme ça, si on a des symptômes qui apparaissent, directement contacter le Toxcentrum au 145, et puis avec ces déchets, aller aussi directement à l'hôpital. Et on a des contrôleurs qui sont formés en spécialistes en intoxication, et eux, ils viendront en fait déterminer par rapport au reste. Et puis leur but à ces contrôleurs, c'est de éliminer le potentiel d'une amanite phalloïde, en tout cas des champignons mortels.
Gaëlle, on est en plein milieu du mois de mai. Quels sont les champignons qui sont comestibles, attention, qu'on peut trouver en ce moment ?
Alors, les champignons qu'on peut trouver en ce moment, ben justement, on a le tricholome de la Saint-Georges. La morille, ça commence d'être un peu tard. Mais après mai, début juin, on a aussi les cèpes d'été qui commencent. Donc, on a quand même potentiellement d'autres espèces qui arrivent.
Et puis, on rappelle qu'on peut toujours faire vérifier les champignons auprès de vous. Peut-être rappeler en quelques mots ce que c'est VAPCO ?
Alors, la VAPCO, c'est justement l'association qui s'occupe de former les contrôleurs, de faire des formations continues aussi pour les contrôleurs. Et du coup, elle est aussi là pour sensibiliser le public sur l'importance des champignons, le respect aussi de la nature. Et en tant que contrôleur, on apprend aussi à cuisiner les champignons et puis à pouvoir aussi apporter un conseil, un point de vue conservation et puis comment cuisiner les champignons aux particuliers qui viennent nous voir.
Merci Gaëlle Mona d'avoir été notre invitée ce matin. On rappelle que vous êtes contrôleuse en champignons pour VAPCO, l'association suisse des organes officiels de contrôle des champignons. Gaëlle, on vous donne rendez-vous en automne pour de nouvelles découvertes de champignons. Merci et bon week-end.
Merci.
Merci beaucoup Gaëlle. Rendez-vous samedi prochain dès 7h pour les jardinières. Nous serons en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve. Bien sûr, on répondra à toutes vos questions jardinage. Il nous reste à vous souhaiter un bon week-end Noélie.
Bon week-end Mylène.
Et bon week-end à toutes et à tous. Merci pour votre écoute.
7h, 8h, les jardinières.